Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand vous verrez l'abomination, la désolation dans le lieu saint, préparez-vous. Non, je ne vais pas vous parler, mes bien chers frères, de la fin du monde. D'ailleurs, ces propos de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas par rapport à la fin du monde, ni même par rapport à notre époque. Il faut faire attention à notre utilisation des paroles de la Sainte Écriture, parce que ces paroles sont sacrées, ce sont les paroles de notre Seigneur, elles ont un but particulier, elles sont dites dans des circonstances particulières, et là, notre Seigneur Jésus-Christ, qui reprend la prophétie de Daniel, parle explicitement et de façon littérale, non pas de l'Église, mais du Temple de Jérusalem, qui est profané en l'an 70 par les Romains. Néanmoins, puisque il s'agit aujourd'hui de parler de sacerdoce, c'est l'occasion de parler, bien sûr, de cette dégradation, désacralisation généralisée dans la Sainte Église. Et donc là, on n'est plus sur le sens littéral, qui est le premier, le plus important, mais sur un sens spirituel, accommodatiste même, pour le coup. Donc, parlons du sacerdoce. L'apôtre Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, nous dit que tout pontife est pris d'entre les hommes et établi pour les hommes dans ce qui les relie à Dieu, quae sunt ad Deum, dans ces choses qui sont vers Dieu, par rapport à Dieu, en relation à Dieu. Bien sûr, il y a différents degrés dans le sacerdoce et le pontife en tant que tel, c'est bien évidemment l'évêque. Mais le prêtre, l'épiscopat, n'est pas, semble-t-il, selon les théologiens, un sacrement distinct. Il n'y en a que 7 de sacrements. Et donc, le sacerdoce, eh bien, a aussi cette fonction de pontife. L'apôtre Saint Paul, ici, nous parle, fait la référence au pontife de l'Ancien Testament. D'ailleurs, pontife, c'est celui qui fait, qui établit un pont entre deux rives, c'est-à-dire entre Dieu et les hommes. Qui établit ce pont entre Dieu et les hommes de la manière la plus parfaite et de la manière la plus nécessaire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. En ce sens, c'est le seul et unique pontife, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que seul Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la fois Dieu et homme. En tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, il est consubstantiel au Père, donc il n'est pas seulement de même nature que le Père, il est consubstantiel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même nature divine. Donc Jésus-Christ notre Seigneur est Dieu. Mais Jésus-Christ notre Seigneur, et ce sera tout le but de cette préparation du temps de l'Avent à la fête de Noël, est également parfaitement homme. Il a un corps et une âme comme nous. Cependant, ce corps et cette âme subsistent dans une nature, dans une personne, pardon, ou hypostase, pour employer le terme théologique grec, divine. Donc, le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui seul réunit dans sa personne, par l'union hypostatique, l'humanité et la divinité. Donc, le prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, est-ce que, comme le prétendait récemment le Vatican, comme le prétendent les protestants, Est-ce que cela exclut d'autres médiateurs, d'autres intermédiaires? Et évidemment non. C'est le problème majeur de notre époque, c'est le problème majeur du modernisme actuel et passé, c'est ce protestantisme en réalité qu'il y a derrière, et derrière ce protestantisme, cette fausse philosophie qui est héritée d'ailleurs de précurseurs du protestantisme comme Guillaume d'Ockham ou autres dans le domaine intellectuel, et Luther a reçu ce genre d'enseignement, à savoir cette manière de penser univoque. Médiateur, ça n'a qu'un seul sens. Prêtre, ça n'a qu'un seul sens, c'est celui de pontife entre Dieu et les hommes, et ça ne peut être que notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cela est faux. C'est une vision des choses qui est partielle et qui est insultante, en fait, vis-à-vis de Dieu. Eux, ils prétendent que nous insultons Dieu, notre Seigneur, en nous prétendant prêtres, ce que nous sommes, effectivement. Eh bien, c'est l'inverse. En ne voulant pas du sacerdoce voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui insultent notre Seigneur Jésus-Christ. De même, ceux qui ne veulent pas de la corédemption de Notre-Dame, ceux qui ne veulent pas de la médiation universelle à son niveau de Notre-Dame, eh bien, ceux-là aussi insultent notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est sa volonté d'avoir unit sa propre mère à toute sa vie et notamment à son sacrifice sur la croix. Parce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qui nous concerne, d'avoir fondé la Sainte Église, une église hiérarchique, une église avec des pontifes, avec des évêques, avec des prêtres, avec des fidèles. Il l'a voulu. Donc, est-ce que nous nous superposons à notre Seigneur Jésus-Christ ? Non. Nous sommes notre Seigneur Jésus-Christ. Sacerdos alter Christus. Le prêtre est un autre Christ. C'est la réalité, et c'est la réalité voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à partir du moment où il a voulu monter au ciel, pour nous montrer que notre place est au ciel, il a fallu qu'il garde sur terre des ministres pour non seulement le représenter, mais établir sa présence et sa médiation sur terre. Ces ministres, ce sont les évêques, les prêtres catholiques. C'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne de sérieux ne peut nier l'existence de l'épiscopat, du sacerdoce, dès les temps apostoliques, évidemment du diaconat, puisqu'il a été institué spécifiquement par les saints apôtres à Jérusalem. Personne de sérieux, à part bien entendu les rationalistes protestants, à part bien entendu les rationalistes modernistes, mais ils ne sont pas sérieux. Ils ont une intention qui est de court-circuiter l'Église, de court-circuiter le plan qui est voulu par Dieu, de court-circuiter la réalité qui est voulue par Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu n'intervienne pas directement en permanence, mais qu'il intervient par des intermédiaires. Philosophiquement, ces intermédiaires, on les appelle des causes secondes. Les causes secondes qui peuvent être dans différents ordres de causalité. Mais donc Dieu, il utilise des intermédiaires. Il veut qu'il y ait des intermédiaires. Dans la nature, chaque être a sa propre causalité. Chaque être, tout étant causé par Dieu, a sa propre causalité. Que ce soit les êtres purement physiques, matériels, que ce soit donc les êtres vivants comme les plantes, etc., eh bien, une fois qu'ils sont constitués par Dieu dans l'être, ils ont leur propre causalité. Le chien se comporte comme un chien parce que Dieu l'a établi ainsi. Mais c'est pas Dieu qui meut le chien directement, on va dire, comme une marionnette à chaque moment de sa vie. Il en est de même pour nous. Nous avons notre propre causalité, même si nous sommes causés en permanence par Dieu. Même si tout notre mouvement vient de Dieu, tout notre être vient de Dieu. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc, dans l'ordre de la surnaturel, il en est de même, parce que l'ordre surnaturel, il est calqué par Dieu sur l'ordre naturel. Par conséquent, eh bien, il faut des intermédiaires, et Dieu a voulu ces intermédiaires que sont les prêtres. Donc, tout pontife, nous dit saint Paul, est pris d'entre les hommes, établi pour les hommes dans ce qui les relie à Dieu. Donc, il y a, en fait, dans le sacerdoce, ce double mouvement. Le prêtre, il est fait pour quoi ? Eh bien, il est fait pour être entre Dieu et les hommes. Il est fait pour amener Dieu aux hommes et pour amener les hommes à Dieu. Tout est résumé dans cette réalité. C'est pour ça que Vatican II et ses conséquences, notamment les réformes liturgiques, les réformes de tous les sacrements, bien sûr la Sainte Messe, mais pas seulement, les réformes des saints ordres, la suppression de tous les ordres mineurs, du sous-diaconat, etc., le bréviaire qui a été complètement réduit quasiment à rien et à une multitude de choix, la fameuse liturgie des heures qui rabaisse aussi le rôle du prêtre, le prêtre qui est mis au niveau des simples fidèles et qui est là pour être accessible ou pour rendre Dieu accessible. Tout ça est un mouvement qui est volontaire, qui part d'erreurs profondes au niveau intellectuel, au niveau philosophique, au niveau théologique. Pourquoi on a voulu traduire massivement les textes de la Sainte Messe pour la rendre accessible? Pourquoi on a voulu que le prêtre s'habille en laïc, se déguise, moi je dirais en laïc, et ne porte plus la soutane ou l'habit religieux, pour être soi-disant accessible? Donc on a cette erreur de vouloir rendre Dieu accessible aux hommes. Ce n'est pas le but de la médiation. Le but de la médiation, c'est de ramener les hommes à Dieu. On les ramène à Dieu en amenant Dieu aux hommes, effectivement. Mais amener Dieu aux hommes, ce n'est pas rabaisser Dieu, c'est élever l'homme. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a fait en tant que prêtre par excellence, et quand il a donc fondé l'Église et les sacrements, justement, comment il a fait ? Il a institué des sacrements, des signes sensibles, accessibles à la compréhension humaine que sont les sacrements, qui nous assurent par sa parole, par la parole de l'Église, des grâces qui sont reçues. Et ces sacrements qui élèvent l'homme à rien d'autre que la participation à la nature divine qu'on appelle la grâce sanctifiante. Donc, Dieu, en réalité, Il ne s'abaisse pas, il élève l'homme. Mais pour élever l'homme, il emploie des moyens humains, effectivement accessibles aux hommes, mais qui les élèvent, pas qui rabaissent le sacré. Pourquoi nous tenons à la langue sacrée qu'est le latin, qui est devenu le latin, parce qu'effectivement, il ne l'a pas toujours été. Au départ, dans les premiers siècles, la langue majoritairement utilisée, c'est le grec. Et c'était la langue commune même du bassin méditerranéen, le grec. Mais il y a cette langue qui s'est instaurée, et d'ailleurs, même la langue grecque ecclésiastique est devenue sacrée à un moment donné. Et quand on a introduit le latin, il est devenu aussi, et très tôt, langue sacrée, tout en ayant les adaptations ecclésiastiques des différentes époques du latin. Pourquoi ? Je pars du latin parce qu'en fait, c'est symptomatique d'une mentalité. Pourquoi on a voulu la traduction vernaculaire ? Pour rendre la liturgie accessible. Pourquoi on a voulu mettre non plus un autel, mais une table entre les fidèles et le prêtre ? Une table donc au milieu, pour rendre la liturgie, soi-disant liturgie pour le coup, accessible, visible directement, que tous les fidèles voient directement ce que fait le prêtre, ce qu'il dit. Donc il y ait ce côté aussi dialogal, direct. On voit une chose là-dedans, c'est ce rabaissement de la liturgie par un esprit soi-disant de meilleure compréhension. Meilleure accessibilité. Si le prêtre est comme l'un d'entre nous, il est habillé comme nous, il sera plus accessible, peut-être, mais est-ce qu'il est visible encore ? Est-ce qu'il est visible ? Un prêtre moderniste qui est venu me visiter une fois, je l'ai rencontré dans un magasin. Je fais mes courses aussi. Mais moi, je me déguise pas en civil. Donc, on peut me reconnaître. Donc, je suis visible. Donc, je suis accessible. Et je l'ai rencontré. Il m'a dit bonjour. Il m'a fallu 5 minutes pour que je me dise, ah ben, tiens, c'est lui. Parce que j'avais qu'une fois. Et donc, bon, je vais pas trop me dire, c'est peut-être me dit quelque chose. Alors, super basket, là, les baskets étaient visibles pour le coup. Mais qui sait ? Celui qui ne le connaît pas, est-ce qu'il sait que c'est un prêtre ? Donc, est-ce qu'il est accessible ? Ben non, il est pas accessible. Donc, vous voyez, paradoxalement, cette désacralisation du prêtre, soi-disant par accessibilité, ben en fait, il est moins visible, il est moins accessible. D'une certaine manière, il est moins prêtre, évidemment, de ce point de vue-là. Il est moins apte à amener les âmes à Dieu. Parce que, ben, il est absolument invisible dans la société. De même, par rapport au sacrement, par rapport à la Sainte Messe, est-ce que ça élève les fidèles d'avoir cette table, quand on voit d'ailleurs les gestes, souvent la tenue aussi négligée des prêtres, évêques, les ornements qui sont souvent très laids, pas systématiquement, mais vous avez pu voir la cérémonie extrêmement médiatisée de la réconciliation de Notre-Dame. On aurait dit des choses qui sont tirées de enfin de jeux vidéo ou je sais pas quoi, enfin avec une crosse absolument horrible, la chape, puis tous les ornements aux couleurs de Lidl et compagnie, enfin bref, absolument aucune dignité. Et en plus, derrière ces couleurs, il y avait une symbolique. C'est eux qui sont, ils sont censés vouloir l'accessibilité, mais c'est une symbolique absconce et que personne ne comprend en fait. Donc là encore, contradiction. Tandis que celui qui connaît un minimum la messe catholique, qui a son missel bien sûr, tout est compréhensible. Tout le mouvement sacré est compréhensible. Il y a les fidèles, il y a le prêtre, il y a l'autel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que même sans le Saint-Sacrement présent à l'autel, il faut savoir une chose. L'autel lui-même représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cette raison que même si le Saint-Sacrement n'est pas présent, notamment dans les jours saints, le Vendredi Saint, on fait l'inclination devant l'autel. On peut le faire devant la croix aussi, mais c'est devant l'autel en tant que tel, parce que la pierre angulaire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, bien sûr, notre Seigneur est en plus réellement, substantiellement présent dans le tabernacle, dans la Sainte Eucharistie, bien sûr. Et là, on comprend. Mais le prêtre, il ne fait pas écran entre notre Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu, pour employer leurs expressions. Il ne fait pas écran entre le peuple de Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tiré du peuple de Dieu. Moi, j'ai été un laïc comme vous. J'ai été un simple fidèle comme vous. Je ne le suis plus depuis 20 ans maintenant. J'ai été tiré, comme le dit saint Paul, du peuple, des hommes, établi pour les hommes, pour les fidèles, pour tout ce qui les relie à Dieu. Donc, je suis un homme, mais au-dessus des hommes, parce que je représente notre Seigneur Jésus. C'est pas en raison de mérite personnel, etc. C'est pas la question. C'est en raison de ma vocation, de l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout simplement du sacrement que l'Église m'a donné, du sacrement de l'ordre. Est-ce que je fais écran? Non. Je suis là pour conduire vos prières à notre Seigneur Jésus-Christ, offrir le sacrifice à notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Paul à la fin de cette citation, établi pour tout ce qui les relie à Dieu, spécialement dans l'offrande des sacrifices pour les péchés. Donc le prêtre, il est là en tant qu'autre Christ pour offrir vos prières, vos sacrifices à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là dans l'autre sens parce que, justement, le fait que le prêtre parfois se tourne vers les fidèles, comme maintenant je le fais, et parfois, la plupart du temps, pendant la messe, il est tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers la croix, vers le tabernacle, vers l'autel, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, il est le mouvement, le sens est de celui des fidèles vers Dieu. Et quand le prêtre est dans l'autre sens, il est dans le sens du mouvement de Dieu vers les fidèles, de donner des grâces, comme lorsque on va distribuer la Sainte Communion, lorsque on va se tourner pour vous dire « Dominus vobiscum », « Le Seigneur est avec vous ». Se tourner quand on va donner les sacrements, parce que quand l'évêque il donne le sacrement de la confirmation, il est tourné dos au tabernacle, dos à l'autel, parce que c'est lui le Christ. C'est pas injurieux à notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire. Quand il va faire des bénédictions, bénir les rameaux, bénir du pain, etc., on se tourne aussi, c'est pas systématiquement le cas, mais pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les bénédictions du ciel qui descendent sur la terre. il n'y a pas à faire d'opposition entre la position face aux fidèles, quelquefois, et face à l'autel, au tabernacle, à la croix, à notre Seigneur. Pourquoi ? Bah parce que le prêtre, c'est notre Seigneur. Et en même temps, c'est les fidèles. C'est ça le rôle du prêtre. Donc, tout s'explique et tout est merveilleusement harmonieux quand on a compris cette réalité. Donc, au bout de 20 ans de sacerdoce, on ne va pas changer. Je suis prêtre pour cela et c'est juste pour vous rappeler, moi, comment j'entends le sacerdoce. Je ne l'entends pas personnellement. Je l'entends comme l'Église l'entend. Comme ce que notre Seigneur Jésus-Christ était quand il était sur terre. C'est-à-dire son but d'être à la tête des hommes, d'amener les hommes à Dieu et d'amener Dieu aux hommes. D'amener les hommes à Dieu en les élevant par la grâce sanctifiante. Donc le premier but du prêtre, c'est de conférer les sacrements véritables, les sacrements de la Sainte Église, parce que c'est eux qui vont vous donner cette grâce sanctifiante ou augmenter cette grâce sanctifiante. C'est eux qui vont vous rendre participants de la nature divine et capables donc de vous adresser à Dieu convenablement. Donc c'est même par les sacrements que notre relation individuelle à Dieu, parce que quand nous prions, on peut se dire directement, bah, il n'y a pas de médiateur entre moi et Dieu. Oui, mais si vous pouvez prier Dieu de façon adéquate, vous adresser à lui comme ses amis, c'est parce que vous avez la grâce sanctifiante. Et qui est-ce qui vous a donné la grâce sanctifiante ? C'est la Sainte Église. Par quel instrument ? Par le moyen du prêtre, par le moyen des sacrements. Donc vous voyez que même la prière individuelle du chrétien, la relation individuelle, directe, apparemment sans médiateur du chrétien à Dieu, dépend de cette médiation de la Sainte Église, dépend de cette médiation du prêtre. Donc le premier devoir, c'est celui-ci, d'assurer les sacrements. De la part des fidèles, c'est de ne pas considérer le prêtre comme un distributeur de sacrements. Nous ne sommes pas des distributeurs de sacrements. Nous donnons les sacrements pour donner la grâce. Et ça implique une responsabilité de notre part, un jugement de notre part. On a le droit de refuser l'absolution. On a le droit de chasser des personnes de nos chapelles parce qu'elles sont toxiques pour le bien commun. On a le droit parce que cela fait partie de cette responsabilité. Deuxièmement, l'enseignement. Nous ne sommes pas l'Église. Nous n'avons pas de juridiction, effectivement. Et même, de toute façon, en tant que simple prêtre, nous ne faisons pas partie de l'Église enseignante. En tant que simple évêque sans juridiction, les évêques traditionnalistes, quels qu'ils soient, ne font pas partie de l'Église enseignante. Il faut le rappeler. Par conséquent, que nous soyons évêques ou prêtres dans la situation actuelle de l'Église, que devons-nous enseigner ? Nous devons enseigner l'enseignement de la Sainte Église, qui est manifeste à travers les textes de la Sainte Église, des papes, des conciles. Je dis bien des papes, des conciles, je ne dis pas des saints papes, des saints conciles, etc., parce que il n'est pas nécessaire qu'un pape soit saint pour enseigner la saine doctrine. Il est nécessaire qu'il soit pape, tout simplement. Donc, dans l'absolu, Dans l'absolu, par exemple, l'enseignement de Saint Pidis n'a pas plus de valeur que celui du pape Léon XIII, que j'aime beaucoup d'ailleurs également, ou du pape Pie IX. Il n'est pas nécessaire qu'il soit canonisé. A priori, évidemment, Saint Pidis, s'il est canonisé, c'est qu'il a particulièrement accompli son devoir de pape et qu'il a des vertus héroïques, bien entendu. Et donc, ça le place à un niveau spécial. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, en tant que prêtres, qu'est-ce que nous devons chercher à vous transmettre? La doctrine de l'Église. Là aussi, nous nous efforçons, je m'efforce de le faire depuis 20 ans et je m'efforcerai toujours de continuer à vous enseigner cette saine doctrine. Et croyez-le ou pas, c'est beaucoup de travail quotidien, c'est beaucoup d'études pour vous donner les meilleures réponses possibles lorsque vous m'interrogez individuellement ou lorsqu'il faut préparer un sermon, etc. Ça fait partie de nos devoirs, donc, et nous essayons de nous y appliquer. Troisièmement, l'Église, par les prêtres, eh bien, elle mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce gouvernement, mais là encore, nous n'avons pas de juridiction. Donc, comment va s'exprimer ce gouvernement ? En essayant de maintenir nos chapelles dans le bon ordre vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, si parfois il faut hausser le ton, si parfois il faut vous ramener à vos devoirs de chrétien avec plus de vigueur, eh bien, nous le faisons. On n'aime plus ce langage direct, ferme. On n'aime plus s'entendre dire ces vérités. On a du mal à accepter cela dans le monde dans lequel nous sommes parce que il y a un rejet général de l'autorité, parce qu'il y a une mentalité de démocratisme, parce que malheureusement aussi beaucoup de prêtres, de confrères, pour avoir le plus de monde possible, choisissent de se taire sur les sujets les plus délicats. Eh bien, ce n'est pas mon choix. Et donc, lorsqu'il faut hausser le ton, je le fais et je le ferai, malheureusement, parce que ce n'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, mes bien chers frères, le programme pour les prochaines années, il est toujours le même. Vous donner les sacrements, vous donner l'enseignement de l'Église et maintenir nos chapelles dans un bon esprit, dans un esprit catholique. Maintenant, vos devoirs de fidèles sont simples. Un respect sincère du prêtre, le devoir d'assistance, bien entendu, du prêtre. Quand je parle de respect sincère, eh bien, c'est que si vous avez quelque chose à me dire, il faut me le dire personnellement. Je déteste le mauvais esprit. Je déteste les choses qui sont insinuées dans mon dos de façon générale. C'est viscéral, c'est caractériel. Donc, forcément, ça me pose problème. Et surtout, ça divise. Et le but est que nous soyons unis convenablement. Donc, bien sûr, ça reste heureusement exceptionnel. Et ici, bien entendu, je n'accuse absolument personne. Je vous invite simplement, quand il y a des choses, à le dire avec honnêteté. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec vous. C'est pas le but. Et ça veut dire simplement que moi, j'essaierai de vous donner l'avis et ce que pense, ce que dit et ce qu'il faut faire selon les avis de la Sainte Église, tout simplement. respect sincère, honnêteté, devoir de prière. Bien sûr, nous sommes des hommes et nous ne sommes pas des hommes comme notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui est une personne divine. Et nous ne sommes pas parfaits, nous avons des défauts en tant que prêtres. Nous essayons au jour le jour, comme je pense chacun d'entre vous, de nous en corriger, de nous améliorer. Et par conséquent, il vaut mieux prier pour les prêtres que, bien entendu, les dénigrer. Donc, prier aussi, et je finirai par cela, prier pour moi. C'est une demande instante. J'en ai besoin, comme chacun d'entre nous, et j'ai besoin des grâces de Dieu, j'ai besoin des grâces d'État, de mon sacerdoce, et comme je vous le disais la semaine dernière, les grâces, elles s'obtiennent par la prière. Donc, je compte sur vos prières, aujourd'hui pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ de ses 20 ans, et vos prières, bien sûr, pour l'avenir, que je reste fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ et que je progresse de jour en jour vers l'état qui convient le mieux au prêtre, l'état de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.